Recevez appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du débat. 2 ans après le début de la crise au Burundi, le pouvoir estime que la situation est désormais apaisée. Il parle même d'une crise imaginaire, alors que pour les défenseurs des droits de l'homme, le régime continue de tuer et de torturer à l'abri des regards indiscrets. Jusqu'à présent, ni les menaces, ni les sanctions économiques, ni les discussions politiques n'ont permis de faire bouger les choses. Alors quel avenir pour le Burundi? Faut-il encore croire à une solution diplomatique? Vous nous appeler pour participer. On accueille tout de suite Jean-Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour RFI.
Vous vivez à Bujumbura. À quoi ressemble la vie quotidienne aujourd'hui dans la capitale burundaise?
La vie quotidienne des citadins du Burundi, c'est le calvaire. C'est le calvaire quotidien. C'est un pays qui est au bord du chaos. C'est un pays où même si les yeux ne sont pas tournés sur nous, c'est une répression aveugle dans l'océan Katanga qui s'observe ici au Burundi. Des tortures, des enlèvements continuent de se faire dans l'océan Katanga. Le gouvernement du Burundi ne cesse de dire qu'il y a la paix, mais il y a la répression interne et aveugle. Vraiment, c'est un pays qui est au bord du chaos. Il faut que tout le monde intervienne avant qu'elle vienne rapidement, car demain, ce sera trop tard. Il faut agir maintenant. C'est un pays qui est très, très, très mal.
Pour vous, il y a urgence maintenant?
Oui, il y a urgence. L'urgence s'impose surtout à la communauté est-africaine. La communauté est-africaine, comme le Burundi fait partie, il faut qu'il sache, comme la CEDEAO l'a fait pour jamais. Il faut contraindre, réfléchir le gouvernement burundais à participer au dialogue. Lequel dialogue va opposer les vrais protagonistes du conflit? Je répète, les vrais protagonistes du conflit, c'est-à-dire les leaders de l'opposition qui se trouvent à l'extérieur du pays, et les membres de la société civile qui ont manifesté contre le président Pierre Nkurunziza. Parce qu'aujourd'hui, plus de 300 000 Burundais se trouvent à l'extérieur du Burundi, sont enfouis. 3 000 de personnes se trouvent, 3 000 personnes sont déjà mortes. Alors, la monnaie burundaise a perdu plus de 80% de sa valeur. Alors, il faut qu'il y ait un dialogue inclusive des vrais opposants qui se tiennent à l'extérieur parce qu'il y a des mandats qui pèsent sur ces leaders de l'opposition, de la société civile qui se trouvent à l'extérieur. Il faut que la communauté africaine et l'Union africaine prenne des mesures et fléchisse sur sa vie. Il faut prendre même des décisions, avoir même des sanctions pour contraindre le gouvernement du Burundi à participer aux négociations.
Et pour agir rapidement. Merci Jean-Michel. Nous sommes en ligne avec Abdallah. Bonjour.
Bonjour Anne et mes interminables salutations à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Bonjour, vous habitez également à Bujumbura. Est-ce que vous ressentez, vous, des changements dans votre vie quotidienne depuis 2015?
Mais écoutez, oui, il y a un changement. Oui, il y a une crise au Burundi. Mais cette crise n'est ni autre qu'une crise financière. Car le monde entier traverse une crise de plein fouet. Ce n'est pas les États-Unis.
Alors, elle se manifeste comment? Elle se manifeste comment au quotidien?
Très, très difficile. Aujourd'hui, la terre n'est plus fertile. Les gens fuient le pays à cause de la crise. Il n'y a presque plus la pluie dans le pays. Parce qu'il y a les réchauffements climatiques. Moi, je dis, si vous me permettez de lancer un appel à tous les Burundais qui fuient leur pays, je leur dis ceci, chers Burundais, revenez dans votre pays. On est mieux que chez soi.
Pour vous, il n'y a pas de raison de fuir, pas de raison de s'inquiéter du climat au Burundi?
Il n'y a pas de raison de s'inquiéter du climat. Les histoires où la sécurité s'améliore chaque jour davantage, il n'y a, madame, les mauvais gens ne manquent jamais. Il y a certains gens qui font mal au peuple burundais et ils se réclament du Imbonerakure et certaines personnes qui profitent de leur statut d'Imbonerakure pour faire du mal aux gens.
Les Imbonerakure, c'est donc la ligue des jeunes du parti au pouvoir et qui est accusée de commettre de nombreuses exactions par plusieurs pays étrangers et notamment par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme.
Oui, exactement. Il y a de ces gens-là qui se réclament de ça et des autres qui profitent de cette statue pour faire du mal aux gens. Mais on ne va pas généraliser. Il y a une crise, mais ce n'est pas tous les Burundis. On ne veut pas s'alarmer. On ne veut pas l'armée courir des cifres dans le monde entier pour faire croire que le Burundi va mal. Non, le Burundi s'améliore chaque jour davantage, madame. Je déplore, moi, personnellement, la fin des financements européens. Il faut absolument que le financement reprenne. Cela pourra améliorer les choses. Croyez-moi sur parole, et personne ne viendra pas vous dire le contraire, madame. Et pour ce qui concerne le dialogue, je suis désolé de le dire. Moi, je demande à l'opposition, entre guillemets, de faire le premier pas en reconnaissant la légitimité des institutions pour l'intérêt général du pays.
Alors ça, c'est justement ce qui fait débat. Merci Abdallah de nous avoir appelé de Bujumbura, où peu de personnes osent parler publiquement de la situation. Nous avons reçu des messages, des témoignages du Burundi, mais la plupart des auditeurs à qui nous avons parlé ont refusé de s'exprimer ce matin à l'antenne, par peur d'être reconnus ou par peur des représailles. Même les Burundais installés à l'étranger ont préféré s'abstenir pour éviter que leurs familles restées au pays puissent subir d'éventuelles conséquences. C'est peut-être un moyen d'ailleurs de mesurer à quel point la pression est forte au Burundi aujourd'hui. Bonjour Yves.
Bonjour, comment vous allez? Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Je vais très bien, merci. Vous êtes à Kigali, au Rwanda. Est-ce que vous ressentez des effets de la crise qui touche le Burundi, qui est donc un pays voisin du Rwanda?
Effectivement, parce qu'ici au Rwanda, d'abord, on a connu ce qui se passe au Burundi. Pour répondre un peu à Abdallah, le discours qui tient a été tenu dans les années 80, dans les années 90, avant le génocide. On disait toujours que tout allait bien au Rwanda. Et vous avez vous-même dit qu'il y a même des Burundis qui ont peur de s'exprimer. Aujourd'hui, la situation des Burundis, c'est que les Burundais pensent qu'ils ont été abandonnés. Quand vous causez avec des Burundais qui sont réfugiés ici au Rwanda, ils vous disent qu'ils ont été abandonnés par la communauté internationale.
Est-ce que les Burundais continuent d'arriver au Rwanda?
Oui, ils continuent à arriver. Ils arrivent tous les jours. Il y a ceux qui arrivent par les routes, qui fouillent les exactions. Quand ils vous racontent leurs histoires, c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. Or, ce qu'il y a à faire, c'est contraindre le gouvernement de Nkurunziza de s'asseoir sur une même table sans concession avec l'opposition. Et il faut faire pression sur l'Afrique du Sud qui est un pilier qui, à qui Nkurunziza trouve un appui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si on ne fait rien, l'inévitable peut arriver comme au Rwanda.
Et pour vous, le régime bénéficie de soutien dans la région aujourd'hui?
Oui, oui, il y a la Tanzanie qui joue un double jeu en envoyant son ancien président comme médiateur et en fermant les yeux sur le gouvernement, en ne faisant pas un effort considérable pour contraindre le gouvernement burundais à s'asseoir sur une même table. Il y a la Tanzanie et l'Afrique du Sud.
Merci Yves et bonne journée à Kigali. C'est vrai qu'aujourd'hui, Pierre Nkurunziza semble pouvoir compter sur plusieurs pays de la région. Enfin, pas forcément des soutiens directs, mais en tout cas des pays qui ne montrent pas beaucoup d'empressement à le voir partir. Alors un nouveau sommet des pays d'Afrique de l'Est est prévu dans les prochaines semaines. Mais vu que toutes les autres initiatives ont échoué, est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de ce rendez-vous? Bonjour Paul-Marie.
Bonjour Anne Kofferd et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Pensez-vous que cette fois-ci, la diplomatie peut faire avancer un peu les choses?
Ben, je crois qu'il n'y a plus rien à espérer de la diplomatie. Tout a été mis en œuvre pendant 2 ans pour faire entendre raison à Nkurunziza. Il n'a pas écouté. Les sanctions ont été prises. Ça n'a pas d'effet, en tout cas sur le régime. Il y a plutôt de l'effet sur les populations. Ce qu'il reste, c'est utiliser, c'est faire recours à la force. Moi, je crois que le cas de la Gambie devrait être un cas d'école. Chaque fois que le président essaye de patrouiller les élections, essaye de modifier les constitutions pour se maintenir au pouvoir, je pense que les armes peuvent défendre la démocratie. Donc, ce qui reste à la communauté internationale, c'est de faire que Nkurunziza soit chassé par la force.
Alors, vous n'êtes pas le seul à penser. Gaël sur Facebook nous dit également que la seule solution maintenant, c'est de mettre en place, pour améliorer la situation des Burundais, une intervention internationale et d'intervenir manu militari contre ceux qui braquent le peuple burundais. Bonjour Henri.
Bonjour Anne Kantner.
Vous venez d'entendre Paul-Marie qui plaide donc pour une intervention militaire au Burundi. C'est la bonne option selon vous?
Oui, parce que bon, vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il va falloir qu'on tienne compte, évidemment, de de l'origine même de cette crise. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'y avait pas de crise au Burundi, mais franchement, je ne sais pas si c'est un martien ou c'est un terrien comme moi. Tous nous savons que la crise est politique, elle est aussi économique. Économique, pourquoi ? Parce qu'il y a des sanctions. Alors moi, je suis pour l'approfondissement des sanctions contre Nkurunziza et le contraindre de se mettre autour du même table pour parler avec les opposants, puisque les opposants, aujourd'hui, ils ont raison, c'est à cause, évidemment, de la violation des accords d'Arusha qui lui interdisait de revenir au pouvoir, qui justifie cette crise actuelle. Alors, évidemment, hein, je peux dire que si Nkurunziza pense que nous sommes toujours à l'époque des dictatures, qui est véritablement révolue, il faut l'option militaire, comme en Côte d'Ivoire, la fois en Côte d'Ivoire lors des élections en 2011 qui ont fait partir Laurent Gbagbo.
Mais alors, sous quelle forme une option militaire, une intervention militaire, pardon, par qui elle devrait être menée?
Mais voilà, l'option militaire doit être menée par les Nations Unies et aussi avec certains pays d'Afrique qui sont favorables à l'enracinement de la démocratie dans la sous-région, l'Angola ou le Rwanda par exemple. Donc cela ne peut pas être exclu, à voir comment le faire partir, parce que aujourd'hui, le Burundi devient, ce pays qui envoie les gens comme ça. En exil, ici en RDC, de l'autre côté en Ouganda, ainsi de suite. Et c'est pas bon, ça déstabilise la sous-région, alors que nous devons grandir. Regardez un peu en Afrique de l'Ouest, la CDAO, madame. Vous voyez que là-bas, il y a l'enracinement de la démocratie, les choses sont en train d'aller un peu de l'avant, même le Nigeria qui était un peu difficile. Aujourd'hui, on peut parler de l'alternance, l'Angola également. Il y a le président Dos Santos qui va partir, il y aura l'alternance en termes d'hommes. Donc aujourd'hui, nous voulons que, évidemment, dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs, que les choses puissent évoluer.
Et alors, qu'il puisse y avoir donc aussi une alternance. Merci Henri d'avoir été avec nous. Bonne journée à Kinshasa. 33 9 693 693 70, c'est le numéro pour participer au débat. Nous parlons aujourd'hui de la crise au Burundi. 2 ans déjà de violence, de situation économique qui se détériore et toujours aucune perspective concrète pour sortir de cette crise. Bonjour Ousmane.
Bonjour Anne.
Quel avenir pour le Burundi selon vous?
Extrêmement difficile à dire, il faut être voyant pour le dire. La Burundi, c'est la problématique du pouvoir en Afrique. Et comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, l'alternance du pouvoir en Afrique est l'exception qui confirme la règle. Parce que les présidents africains n'ont pas l'intention de quitter le pouvoir et ils font tout pour s'y cramponner. Et c'est comme ça qu'il faut voir la tentative de Nkurunziza. Alors, si les pays de l'Est, de l'Afrique de l'Est, vont se réunir, vont rencontrer Nkurunziza pour lui parler de garder raison, s'ils veulent faire intervenir leur pouvoir pour faire changer les choses, mettre Nkurunziza sur la table de négociation avec l'opposition, oui, c'est une bonne chose, mais moi j'en doute profondément, parce que chacun essaie de couvrir ses arrières. On ne pense pas au peuple, on pense au pouvoir. Et tous ces gens-là qui viennent se demandent, et si demain c'était mon tour, qu'est-ce qui allait se passer? Donc, je suis pessimiste en ce qui concerne la réunion des pays de l'Est, et malheureusement, Nkurunziza va être le même cas que ce qui s'est passé au Congo, que ce qui s'est passé au Gabon, etc. Et c'est très dommage pour l'Afrique.
Alors, donc vous n'avez pas trop confiance dans les institutions, la communauté des États d'Afrique de l'Est, mais l'Union africaine par exemple aussi peut-être pourrait intervenir?
J'attends de voir, parce que vous savez, il y a un syndicalisme des chefs d'État en Afrique, ils n'osent jamais dire la vérité entre eux et ils veulent toujours préserver leurs intérêts, c'est ça le problème. Alors est-ce qu'ils sont honnêtes, est-ce qu'ils sont sérieux? Ben, on va voir, mais moi je suis quelque peu pessimiste et dire que tout va bien actuellement au Burundi, ça c'est mentir au monde entier et c'est un crime contre les Burundais qui souffrent, qui sont à l'extérieur, qui se battent, ceux qui sont morts, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui ont ont été torturés. Et honnêtement, et c'est pas soutenable.
Merci Ousmane. Julien sur Facebook nous parle également de l'Union africaine irresponsable selon lui. Il faut que les Africains prennent leur destin en main afin que la vraie démocratie puisse régner. Et dans le cas contraire, c'est le chaos qui va toujours continuer selon lui. L'Union africaine, elle avait quand même prévu d'envoyer 200 observateurs au Burundi, des observateurs des droits de l'homme et des experts militaires. Mais pour l'instant, une petite partie seulement est effectivement sur le terrain. Et puis, ils n'ont pas trop le droit de travailler librement. Bonjour Franck.
Bonjour.
On parlait de l'Union africaine, des pays d'Afrique de l'Est, mais en fait c'est un peu la même chose pour les Nations Unies. L'ONU a nommé une enquête, une commission d'enquête qui n'a pas eu le droit pour l'instant d'entrer au Burundi. Vous croyez encore, vous, à une solution diplomatique ?
Oui, une solution diplomatique est possible, mais pour autant qu'on respecte un peu aussi le pouvoir burundais, parce que dès le départ, la communauté internationale a commis une grosse erreur de s'ranger du côté des opposants, sans pour autant vérifier exactement ce qui se passait au Burundi, parce que ce qui se passait au Burundi, c'était un problème de l'interprétation de la Constitution. Et les constitutions est mal écrite ou les accords d'Arusha ont été mal écrits. Alors ce qui se passe, c'est que les gens, ils se sont engouffrés dans ce vide et ils ont voulu garder le pouvoir. Mais je pense que ce qui était le plus important, c'était pas de se ranger du côté des opposants et toujours pilonner sur le président à l'époque.
Vous trouvez que c'est ce que fait la communauté internationale ?
Oui, c'est ce que je pense, parce que ils n'ont pas cette façon d'être neutre dans l'affaire, parce que par exemple, les rapports qui ont été faits par la communauté internationale, on n'a jamais mentionné les exactions commises par les opposants qui tuent les gens au Burundi. Ça, c'était un problème. Donc le pouvoir burundais s'est durci par rapport à ça, parce qu'ils ont pensé qu'ils ne pensent que seulement à les renverser et que la communauté internationale fait partie des gens qui veulent renverser le pouvoir.
Donc pour vous, il ne faut pas parler avec l'opposition qui est aujourd'hui en exil ?
Il faudra parler avec l'opposition en exil, mais vous parlez de quelle opposition, madame ? Si vous parlez du CNARED, le CNARED, justement, quand il a été créé, il y avait toutes les factions presque de partis politiques. Alors, donc à ce moment-ci, il ne restait qu'une partie des gens d'un seul parti au pouvoir, les autres sont même retournés au pays.
Oui, il y a eu des divisions au sein de l'opposition en exil. D'ailleurs, le pouvoir s'appuie également sur ça pour dire que ce mouvement n'est pas représentatif. Bonjour Richard.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez, vous, que cette opposition en exil, ce mouvement du CNARED, est en mesure de faire changer les choses ?
Non, pas du tout, parce que le CNARED, quelques temps après sa création, elle a repris la même façon de faire que le gouvernement en place. Ils ont commencé à chasser certaines personnalités de leur groupe. Cela prouve qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Mais comme on est au moment des bilans, 2 ans après, aujourd'hui, je pense que l'opposition doit commencer à assumer ses responsabilités. Il y a deux choses. Il faut assumer ses responsabilités et se réorganiser. Assumer ses responsabilités, c'est accepter la responsabilité d'avoir envoyé les manifestants à l'abattoir. Ils savaient très bien que le gouvernement allait tirer sur les opposants.
C'est pas forcément une raison pour ne pas se mobiliser et exprimer une contestation. Et se réorganiser, vous voulez dire quoi ?
Se réorganiser, c'est prendre une nouvelle stratégie pour les négociations, c'est-à-dire arrêter de rêver au partage du pouvoir par les négociations qui sont en train de se faire à Arusha, mais d'accepter la réalité, c'est-à-dire que de se préparer plutôt à des négociations pour aller vers des élections, les élections de 2020, avoir des élections qui sont transparentes et démocratiques.
Merci Richard. Préparez donc les prochaines élections qui sont prévues dans 3 ans maintenant au Burundi. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Avant de vous laisser, je vous rappelle que Juan Gomez vous attend cet après-midi à Abidjan pour l'enregistrement de 2 émissions en public. Soyez nombreux, rendez-vous à partir de 15h à l'école Magic System d'Anoumabo, donc à Abidjan.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144 dièse.